France Musique.
Octobre 1917, la nuit rouge. Le soir du 24 octobre 1917, Lénine est à Petrograd, seul. Depuis plusieurs jours, il est un hors-la-loi au regard du gouvernement. Il se cache donc chez Fofa Vova, une militante bolchevique qui lui a prêté son appartement. L'attente est insupportable. Ce soir-là, il le sait, il le sent, le pouvoir est à portée de main. Le gouvernement Kerensky est au fond du gouffre d'impopularité. En voulant continuer la guerre, en déclenchant l'offensive militaire du général Broussilov, qui a échoué dans le sang, il a perdu ses soutiens dans l'armée et chez les ouvriers. La révolution de février 1917 s'effiloge dans la division et les palabres. Pour Lénine, il faut agir. C'est maintenant ou jamais. Lénine est méconnaissable. Il a posé sur son crâne chauve une perruque blonde surmontée d'une casquette défraîchie et s'est entouré le visage d'une vieille écharpe. Courbé sous le vent du nord, emmitouflé dans un antique par-dessus, il marche à pas pressés dans les rues de Viborg, le quartier ouvrier de Petrograd. Il est décidé à rejoindre le quartier général bolchevique coûte que coûte, malgré la police qui le pourchasse. Il est furieux et déterminé, seul ou presque. Car dans la direction bolchevique, on ne croit pas à cette révolution, dans la révolution. Les vieux communistes clandestins, revenus d'exil ou sortis de prison, n'ont guère envie d'y retourner. Emmenés par Kamenev et Sinoviev, chefs prestigieux, ils jugent le volontarisme de Lénine suicidaire. Car pour eux, les communistes ne peuvent gouverner seuls et ne pourront qu'être chassés ou emprisonnés. Il vaut donc mieux attendre l'ouverture du Congrès des Soviets, ces conseils qui ont pris depuis février le contrôle des usines, des villages et des régiments. Les délégués se réunissent le lendemain à l'Institut Smolny, le quartier général de la Révolution. Là, ils pourront mettre sur pied un gouvernement de coalition qui rassemblera toutes les factions de l'arc révolutionnaire. Les socialistes révolutionnaires, apôtres d'un populisme paysan et ouvrier, les mencheviks, socialistes réformistes, et les bolcheviks, les plus radicaux, militairement organisés, qui pourront influencer ce gouvernement représentatif et unitaire. Dans les rues de Viborg, ce soir d'octobre 1917, Lénine est décidé à imposer ses vues. Entre les factions du parti, le ton est monté très haut. Kamenev a été jusqu'à divulguer dans la presse les plans de l'insurrection pour la faire échouer. Lénine l'a traité de jaune, de traître et de calomniateur. Il monte dans un tram vide. Aussitôt, il assaille la conductrice de questions sur la situation dans Petrograd. Elle est de gauche. Infatigable, Lénine entreprend de la convertir aux idées bolcheviques. Le tram arrive à la gare de Finlande, son terminus. Il faut continuer à pied. Lénine descend dans le froid et poursuit sa route vers Smolny. Soudain, un policier l'interpelle. Il sort ses faux papiers. Le policier l'observe, mais ne le reconnaît pas. Visant son accoutrement misérable, il le prend pour un clochard qui cherche un abri pour la nuit. Il le laisse partir. Lénine continue son chemin en répétant pour lui-même son réquisitoire. Armé de sa rhétorique brutale, il dénoncera les traîtres et convaincra ces révolutionnaires intimidés de faire ce qu'ils doivent faire, la révolution. Arrivé à Smolny, muni seulement de ses faux papiers, il est d'abord refoulé. Il tempête, clame son identité, rien n'y fait. Ce n'est que quelques instants plus tard qu'un groupe de bolcheviks arrive. Sauvé, il se glisse dans le petit groupe et grimpe 4 à 4 l'escalier qui le mène au troisième étage, au bureau des leaders bolcheviques. Il ouvre la porte en coup de vent, s'assoit et se lance dans une diatribe furibarde. La situation est mûre. Ceux qui ne la comprennent pas renient leur mission historique. Les plans de l'insurrection sont prêts, le gouvernement est déjà à terre, le pouvoir est là, offert et presque vacant. Hésiter, c'est trahir. Heurtée, menaçante, implacable, l'intervention de Lénine est décisive. Retournée par l'objurgation pathétique de son chef, la direction bolchevique vote la prise du pouvoir immédiate. Aussitôt, dans la cour de Smolny, les camions démarrent. Chacun transporte un détachement de gardes rouges armés de fusils d'assaut. D'autres groupes partent à pied, marchant dans le vent du nord. Sans tirer de coups de feu, les militants prennent position au carrefour, à l'entrée des grands ponts sur la Neva, devant les bâtiments officiels. Les combattants bolcheviques ont adhéré à l'idéal du révolutionnaire professionnel, dévoué corps et âme à la cause, obéissant, sans mot dire, aux instructions du parti, qui est toute leur vie. C'est Trotsky, leader charismatique revenu de son exil new-yorkais, qui a pris en main l'organisation militaire du parti, tout en se faisant élire président du Soviet de Petrograd. En faisant voter l'insurrection, Lénine a passé la main à Trotsky, qui applique le plan décidé ensemble, à savoir la saisie des points névralgiques de Petrograd. Les gardes rouges s'emparent aussi de la poste centrale, de la banque d'État, du centre de télégraphie ou encore du palais Marinsky. Ils mobilisent les usines de Viborg, le quartier ouvrier de la capitale. Ils peuvent aussi compter sur les marins de la Baltique, retranchés dans l'île de Kronstadt, qui commandent l'entrée de la Neva vers le large. Ou bien ceux qui se sont emparés du croiseur Aurore, qui s'avance pendant la nuit jusqu'au cœur de la capitale. Enfin, vers 20h, un ultimatum est lancé au gouvernement provisoire, réuni au palais d'hiver. Les ministres doivent se démettre. Mais ils préfèrent mourir à leur poste. Les ministres cherchent alors à organiser la défense. En faisant élever des barricades de rondins sur la place en contrebas, ils constatent qu'ils n'ont même pas le plan du palais. Du coup, une des entrées reste sans défense et de petits détachements de bolcheviks s'introduisent à l'intérieur et prennent position. À 22h40, le congrès s'ouvre enfin. Les délégués sont réunis pour décider de l'avenir de la Russie. Le coup de force des bolcheviks les désavoue avant même qu'ils aient débattu. Dès les premiers échanges, il dénonce un attentat contre la démocratie, une trahison de l'unité révolutionnaire. Lénine et Trotsky font face, intraitables. Ils savent que leurs partisans tiennent la ville. Leurs mots d'ordre simples, la paix immédiate, le partage des terres et le contrôle ouvrier des usines, rencontrent les aspirations populaires dans tout le pays. Les autres partis, eux, estiment qu'il faut continuer la guerre, ce qui les rend inaudibles auprès des soldats. Sûrs de leur force, les bolcheviks défient le congrès. Les délégués socialistes, ulcérés, décident de quitter la salle en signe de protestation, sous les huées et les injures des partisans de Lénine. Cette nuit d'octobre 1917, le compositeur Serge Rachmaninov s'est retiré chez lui. Il est à sa table. Il apporte des corrections à son concerto pour piano numéro 1. La salle du congrès, pendant ce temps, passe aux mains des partisans de Lénine. Ils font dès lors voter ce qu'ils veulent en obtenant l'approbation du congrès des soviets. C'est enfin Trotsky qui prononce un de ses discours les plus célèbres. Les masses populaires ont suivi notre étendard et notre insurrection a été victorieuse. Aucun compromis n'est possible. À ceux qui sont partis, nous disons « pitoyable faillie ». Vous avez joué votre rôle. Allez où est votre place? Dans les poubelles de l'histoire.
À réécouter sur francemusique.fr.